D'entrée de jeu, Michel Morisset s'interroge.
Pourquoi le Québec n'a pas été capable d'articuler une politique agricole ou agroalimentaire qui soit à la fois renouvelée, réaliste et cohérente au cours des 15 dernières années, donc depuis le début des années 2000, grosso modo? Qu'est-ce que c'est une politique agricole? Une politique agricole, pour moi, c'est un ensemble coordonné de lois, de règlements, de mesures, d'institutions, de budgets, et le tout tourné vers un but bien spécifié, vers des objectifs à atteindre. Ça implique beaucoup de choses de mettre en place une politique. D'abord, ça oblige une mobilisation et une adhésion d'acteurs privés et d'acteurs publics. Ça implique surtout d'avoir une vision globale et une direction certaine. Et quand on parle de politique, on parle d'une vision qui va être déterminée en bonne partie par l'État, avec la collaboration naturellement des acteurs. Ça repose donc sur une articulation entre l'agriculture, l'agroalimentaire et la société, définie par des groupes qui sont dominants dans ces secteurs d'intervention-là.
Mais justement, malgré toutes sortes de déclarations, d'énoncés d'intentions et de tentatives, Québec n'a pas su faire la somme de toutes les énergies et de tous les intérêts. Il est vrai que le tableau agricole québécois est en plusieurs teintes. Les intérêts sont variés et souvent divergents. Michel Morisset constate ce portrait et estime qu'il sera de plus en plus hétérogène.
Qui seront les intervenants de demain? J'identifie quelques groupes d'intervenants. Un premier groupe qui, d'un point de vue du nombre, est minoritaire, du point de vue économique, a une influence majoritaire ou devrait avoir une influence majoritaire, que j'appelle les petits artisans producteurs de valeur ajoutée, qu'on voit de plus en plus apparaître dans des secteurs que je qualifierais de non traditionnels, qui intègrent en même temps une activité de transformation. Les producteurs, que j'aime maintenant mieux appeler des entrepreneurs, qui ont déjà été familiaux et qui sont de moins en moins familiaux. La transformation de l'agriculture familiale au Québec en agriculture non familiale ne sera pas le fait de grands capitalistes qui vont venir investir l'agriculture. Elle est aujourd'hui le fait d'agriculteurs qui, à 20 ans, pouvaient totalement être qualifiés de familiaux et qui maintenant sont de petits entrepreneurs non familiaux, d'anciennes grandes exploitations familiales, pour lesquelles les enfants joueront peut-être un rôle de direction, mais dans lesquelles la main-d'œuvre risque de parler espagnol. Des grands groupes intégrés verticalement, de plus en plus présents, actifs, acceptés, je dois dire, dans beaucoup de productions, et quelques capitaux externes qu'on voit apparaître, mais qui demeurent relativement marginales par rapport à la masse de la production et de ce groupe-là. Autre acteur qui, pour moi, est fondamental dans le développement de toute politique agroalimentaire, les industriels agroalimentaires. Et pour moi, le secteur agroalimentaire, c'est la conjonction des fournisseurs d'intrants, des producteurs agricoles de toute taille et des industriels, et c'est là que ça s'arrête. Il y a aussi des groupes qui, en nombre, sont peut-être encore majoritaires, mais en influence, vont perdre de l'influence. Pourquoi? Parce que leur pouvoir économique est vraiment en baisse, et en baisse très rapide. Ce groupe de producteurs, 30 % de nos producteurs qui produisent 1 % de la valeur, on sait pertinemment que là-dedans, on a beaucoup de producteurs de loisirs, on a beaucoup de retraités, on a beaucoup de gens dont l'objectif n'est pas de devenir producteur agricole. Ceux qui ont des ventes entre 25 et 99 000 $, on a aussi beaucoup de gens qui sont dans cette condition-là. Après ça, on a des gens qui poursuivront ou des gens qui quitteront, mais c'est clair que les gens qui vont assurer l'avenir économique du secteur sont à l'extrême droite de ce graphique-là.
Et l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, dans tout cela, eh bien, elle n'a pas su non plus se faire rassembleuse, ajoute l'agroéconomiste.
Je ne peux pas faire l'économie de parler de l'UPA quand je parle des politiques agricoles. Et il y a une chose qui est surprenante, c'est que dans toute cette période que je qualifie de période de grande confusion, l'UPA n'est pas pu mieux tirer son épingle du jeu, dans la mesure où c'est l'organisation la plus structurée, la plus organisée, vous me passerez le pléonasme, qu'il y a dans le secteur agroalimentaire. Et quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années, j'identifie pour ma part deux raisons qui ont amené l'UPA à vivre aussi une période extrêmement difficile, les deux dernières années ayant été vraiment le summum de cette difficulté. D'abord, l'UPA, au cours des dernières années, a modifié son discours. Pourquoi est-ce que l'UPA a modifié son discours? Elle a modifié son discours d'abord parce qu'elle a été attaquée de front par la critique de l'agriculture industrielle, par la contestation syndicale, par ces petites organisations qui sont apparues, mais qui ont occupé beaucoup de place dans les médias, et par la montée de ces organisations citoyennes. Fondamentalement, l'UPA se situait au niveau du discours dans ce groupe d'agriculteurs, historiquement, qu'on appelait même, on n'avait pas peur des mots à une certaine époque, les agriculteurs progressistes. L'UPA avait un discours des agriculteurs d'avenir, des agriculteurs qui étaient là pour rester. Et pour avoir travaillé moi-même à l'UPA et dans le lait à l'époque de la bataille du lait nature et du lait industriel, laissez-moi vous dire que les agriculteurs qui étaient pour quitter ou les petits agriculteurs n'avaient pas une voix très haute au chapitre. L'UPA, au cours des 15 dernières années, a dû déplacer le focus de son discours, et elle s'est déplacée sur mon graphique à la gauche. Ce graphique-là, ça nous donne en gris les producteurs en fonction de leur chiffre d'affaires en pourcentage. Donc, 30% des agriculteurs du Québec ont un chiffre d'affaires de moins de 25 000 $. Ils produisent 1% de la valeur produite. À l'autre extrémité, vous avez 5% des producteurs qui produisent pour plus d'un million de $ et qui ont près de 45% de la valeur produite. Le discours de l'UPA s'est déplacé de la droite de ce graphique-là vers le centre ou la gauche de ce graphique-là. Ça a eu comme effet que l'UPA a absorbé une partie de tout ce discours qui a été dit et s'est détaché d'une partie des agriculteurs qui sont les agriculteurs qui assurent la plus grande partie aujourd'hui. 10-12 % assurent la plus grande partie de la production agricole québécoise. L'autre phénomène qui est important, qui touche l'UPA, c'est la problématique du syndicat unique. Non pas que j'en veuille au syndicat unique, mais c'est toute la difficulté du discours unique quand on a un membership qui est de plus en plus hétérogène. Et à partir du moment où le discours de l'UPA plaisait, défendait plus la masse des agriculteurs en laissant de côté la partie la plus, appelons-la, à l'avant-garde de l'agriculture, bien, le risque, c'est qu'il y ait un détachement de ce groupe-là qui ne se reconnaît plus dans le discours unique de l'UPA. Et ça fait partie, pour moi, des raisons qui font que l'UPA n'a pas tiré son épingle du jeu, mais a été, je dirais, englué dans cette confusion qu'on a vécue au cours des dernières années, des 15 ou 18 dernières années.
Pour Michel Morisset, il y a place pour toutes les agricultures au Québec, à la condition que chacune soit rentable.
Il y a plusieurs agricultures au Québec, plusieurs transformations aussi, et un respect mutuel qui va passer aussi par le fait que la reconnaissance qu'il y a des rôles qui sont différents et qu'il y a de la place pour de la grande production. Et il y a de la place aussi pour de la production de valeur ajoutée dans des petites unités qui, toutefois, devront être rentables. On assistera peut-être, je ne le souhaite pas, à un éclatement du syndicalisme agricole tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour moi, si le syndicalisme agricole éclate, ça ne sera pas le fait de l'Union paysanne. Ça sera le fait des agriculteurs eux-mêmes et ça sera le fait de la difficulté d'avoir une organisation qui tient un discours unique alors qu'on a des situations de production qui sont extrêmement différentes. Ça sera de la difficulté du fait que pour tenir un discours majoritaire, on est obligé de se positionner par rapport à la masse des agriculteurs qui ne sont pas nécessairement ceux qui seront là demain ou après-demain. Il y aura éventuellement l'abandon de certaines politiques. Parce que, sincèrement, je doute que les gouvernements rajoutent des sommes énormes dans le secteur agricole. Et si on veut déployer d'autres mesures, bien, il y en a qu'on va fort probablement devoir oublier. Et ça, c'est une des grandes difficultés, un des nœuds gordiens du renouvellement d'une politique agricole. Il n'y a personne qui veut lâcher. Et tout le monde veut garder son pan politique et son budget. Mais de ce point de vue-là, il y a un jour où il y a probablement des choses qui vont éclater.
Un dernier point abordé, la main-d'œuvre. Ce phénomène est aussi la manifestation d'une profonde évolution de notre agriculture et notre société.
Si on passe au deuxième objectif très clair qu'a eu le gouvernement canadien et le gouvernement québécois, c'était de produire de la main-d'œuvre. Et l'agriculture a servi énormément à produire des bras et à les produire bon marché. Pensons qu'il y a 150 ans, on était à 90 % agricole. Aujourd'hui, la population active agricole représente 1 %. C'est un changement énorme qui a dû être géré. Donc, on s'est préoccupé d'avoir des enfants en agriculture, de les élever et surtout de gérer ce qu'on va appeler l'exode rural. Donc, de s'assurer que les migrations soient contrôlées, qu'on réussisse à la fois à produire les denrées agricoles dont on a besoin et qu'on amène graduellement dans le secteur industriel et plus tard dans le tertiaire les populations dont on avait besoin. En même temps, on en a profité pour stimuler l'immigration, que des gens viennent ici, tout en contrôlant les sorties de population, particulièrement vers le nord-est américain, qui s'est industrialisé beaucoup plus rapidement que chez nous. En faisant ça, on a aussi stimulé toutes sortes de productions pour occuper productivement toute cette main-d'œuvre. Les moyens, des politiques d'établissement agricole, des politiques de parité de revenus pour s'assurer que les producteurs ne partent pas massivement quand il y avait des périodes plus difficiles, le développement de services publics, d'infrastructures, question aussi d'assurer aux campagnes les services qu'on retrouvait dans les villes, des politiques de transmission familiale des exploitations qui assuraient la pérennité d'une agriculture fondamentalement familiale, mais aussi des politiques de sortie de l'agriculture. On se rappelle pas, mais on connaît les chiffres. Entre 1956 et 71, on a facilité la sortie de la moitié des agriculteurs au Québec. Les fermes ont diminué de moitié en l'espace de 15 ans. Ça s'appelle de la gestion des flux de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui en reste aujourd'hui? Cet objectif de gérer des flux de main-d'œuvre entre l'agriculture et le restant de l'économie, bien peu de choses. L'agriculture aujourd'hui représente 1,5 % de l'ensemble de la main-d'œuvre active et c'est encore à la baisse. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus une source de main-d'œuvre qu'on va faire venir dans d'autres secteurs. Au contraire, elle est devenue une demandeuse de main-d'œuvre. Et on est confronté aujourd'hui à un problème qui est significatif. Le coût de la main-d'œuvre familiale, base de ce qu'on appelle la ferme familiale, est rendu plus élevé que le coût de la main-d'œuvre étrangère temporaire. C'est une question tout à fait fondamentale par rapport à l'avenir des formes de production qu'on va connaître ici. Aujourd'hui, il y a 10 000 travailleurs mexicains, guatémaltèques qui débarquent tous les printemps pour faire fonctionner les fermes du Québec et pour faire fonctionner de plus en plus aussi le secteur de la transformation. Donc, la question de la gestion des flux de main-d'œuvre ne se fait plus dans le sens où elle se faisait. La préoccupation main-d'œuvre qu'on a dans le secteur maintenant, c'est d'en amener et d'amener de la main-d'œuvre bon marché, parce que même les enfants d'agriculteurs ne veulent plus faire ce type de travail.
Ici Lionel Levac. Peut-être Michel Morisset a-t-il osé dire des choses que bien d'autres préfèrent ne pas aborder. Mais froidement, admettons qu'il faudra bien convenir dans la société québécoise que les disparités, les divergences ne peuvent plus bloquer l'adoption d'un plan de développement de notre agriculture, qui devra alors trouver de la place pour tout le monde. À bientôt.